9% à 3793 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
On termine par la combinaison gagnante du Quintet Plus à Vincennes. Premier le 13, deuxième le 9, troisième le 5, quatrième le 18 et cinquième le 3. Il est 14h03 sur France Inter. C'est 2000 ans d'histoire avec vous, Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Agnès et bonjour à tous. Aujourd'hui, une affaire Dreyfus au siècle des Lumières, l'affaire Callas. L'Odi Callas a été rompu vif et exposé sur la roue où il resta en vie pendant 2 heures. Puis il a été étranglé et son corps a été jeté dans le brasier ardent. Procès verbal de l'exécution de Jean Callas à Toulouse, le 10 mars 1762. D'histoire. Plus de 2 siècles après la condamnation et la mort de Jean Callas, personne ne parlerait plus de lui si Voltaire ne s'en était pas mêlé. Comme le fit Zola pour Dreyfus au siècle suivant, le plus célèbre philosophe du siècle des Lumières prit la défense de ce protestant de Toulouse, accusé sans preuve d'avoir tué son fils, parce que celui-ci voulait, disait-on, se convertir au catholicisme. Grâce à Voltaire, l'affaire Callas devint alors une affaire d'État. Elle mobilisa pour la première fois une force nouvelle, encore inconnue dans l'histoire, l'opinion publique. Comme dans l'affaire Dreyfus, elle a donné une ampleur considérable à ce qui n'était au début qu'un simple fait divers. La découverte par les époux Callas du corps de leur fils, mort chez eux, le soir du 13 octobre 1761, au numéro 16 de la rue des Filatiers, à Toulouse.
Vous avez entendu ?
On dit quelqu'un ?
Oui, on vient d'appeler à l'aide.
On dirait que ça vient de l'arrière boutique des Callas.
C'est chez les Callas.
Oh mon Dieu, mon pauvre frère.
Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ?
Mon frère !
Oh mon Dieu.
Oh, nous l'avons trouvé ainsi.
Mon fils. Apparemment, monsieur, il n'y a plus de vie dans ce corps.
Ça n'est pas vrai.
Quoi, Antoine, mon petit? Mon petit, mais c'est pas vrai, dis, c'est pas vrai pour moi.
Jeanine Garrison, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était le début d'une des plus célèbres affaires de l'histoire judiciaire, l'affaire Callas, à laquelle vous venez de consacrer un livre passionnant. Une affaire, dites-vous, qui aurait pu se dérouler aujourd'hui, qui fait aussi, je l'ai dit, penser à l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle. Ceci, à ceci près que Callas n'était pas condamné parce qu'il était juif, comme Dreyfus, mais parce que il était protestant, ce qui d'ailleurs, au milieu du 18e siècle, était à peu près la même chose.
Je voudrais quand même rectifier quelque chose. Il n'était pas protestant officiellement, il était un nouveau converti, un nouveau catholique. C'est-à-dire qu'il était baptisé catholique, il avait fait baptiser ses enfants catholiques, il s'était marié catholique, mais il pratiquait le culte protestant à l'intérieur de sa maison, toutes portes et volets fermés.
Comme tous les protestants de l'époque.
Comme tous les protestants, c'était le culte domestique, et c'est ce qui a permis d'ailleurs au protestantisme de traverser un siècle après son interdiction lors de la révocation de l'édit de Nantes.
Oui, là on était justement 76 ans, je crois, après la révocation de l'édit de Nantes, donc il était officiellement catholique, mais pratiquant le protestantisme,
de manière clandestine.
Oui, parce que les protestants y étaient contraints à l'époque pour exercer leur métier,
contraire.
Pour ne pas être pourchassés. Cela dit, tout le monde savait que Callas en ville, en tout cas à Toulouse, savait que Callas pratiquait la religion protestante,
oui,
hein, comme beaucoup de
bien
ce qu'on appelait
la rumeur. Et l'opinion toulousaine suspectait Callas d'être dans son cœur et dans son esprit demeuré protestant, et il était aux yeux des Toulousains suspect pour cela.
Alors il y avait beaucoup se convertir. Alors il y avait d'une part la conversion officielle qui fait que Callas n'a pas renié malgré tout le protestantisme. Il y a un de ses fils quand même qui s'appelait Louis, je crois, qui lui est vraiment entré, a déclaré qu'il entrait dans la foi catholique, sincèrement. Lui, en revanche, il avait été chassé de la maison des Callas.
Le Louis en question a voulu embrasser de manière ostensible le catholicisme en devenant en particulier pénitent blanc, c'est-à-dire une confrérie catholique religieuse. Mais son père ne l'avait pas chassé, c'est lui qui était parti. Et je pense que ce garçon a toujours eu mauvaise conscience d'avoir ainsi quitté la religion de ses ancêtres.
En tout cas, Jeanine Garrison, quand on découvre donc le 13 octobre 1761 le corps d'un autre fils de Calas, Marc-Antoine, tout de suite le capitoule, c'est-à-dire le magistrat municipal de Toulouse chargé de l'enquête, David de Baudrigue, soupçonne Calas d'être responsable de la mort de son fils.
On dit que votre fils était sur le point d'abjurer votre religion.
Mais c'est faux.
Il devait se convertir demain matin.
Mais qui dit cela?
Mais tout le monde, tous vos voisins.
Mais c'est une calomnie. Ils disent cela parce qu'ils me veulent du mal.
Et pourquoi vous veulent-ils du mal?
Parce que je suis protestant. Et en pouvant nous rentrer chez nous.
Non. Les nécessités de l'enquête m'obligent à vous mettre en état d'arrestation.
Et vous n'avez pas le droit.
Allez, on les emmène.
Seigneur. Légalement, vous n'êtes pas en droit de les arrêter.
Je le sais.
C'est une lourde responsabilité que vous prenez là.
Je la prends.
Parce qu'ils sont protestants.
Ma foi, oui, monsieur l'assesseur. Parce qu'ils sont protestants.
Alors, c'était un extrait d'une très célèbre série de la télévision dans les années 60, La caméra explore le temps, dont une émission avait été consacrée à l'affaire Calas. Calas, on l'a entendu, soupçonnait tout de suite d'être responsable de la mort de son fils, Marc-Antoine, sous prétexte qu'il n'aurait pas, lui, Calas, le père, supporté que son fils se convertisse dès le lendemain au catholicisme.
En effet, dans la tête des Toulousains qui étaient très hostiles aux protestants et donc aux nouveaux convertis, il y avait l'idée bien ancrée que les protestants ou les nouveaux convertis avaient hérité de Calvin, leur maître en pensée, l'idée que les parents pouvaient tuer le fils rebelle, et un fils rebelle, c'est un fils qui pense à s'engager ostensiblement dans le catholicisme. Donc, pour le capitoule de Baudrigue, pour l'opinion de la rue, qui est très importante, les jeux sont faits. Calas, Jean Calas, modeste commerçant, a tué son fils Marc-Antoine parce qu'il voulait se convertir. Et lorsque Baudrigue a entamé l'enquête, il a fait venir une nuée de témoins. Tous les témoins ont été à charge. Tous ont raconté qu'ils avaient rencontré Marc-Antoine à l'église, que Marc-Antoine leur avait confié qu'il voulait changer de religion. Et il est évident que la conviction de l'enquêteur, qui était aussi le juge, a été très rapidement établi et que son jugement a été d'abord un jugement de mort pour lui et pour toute sa famille parce qu'il a pensé à un crime familial religieux et donc tous étaient coupables, l'autre frère, la femme, la mère du meurtri, la mère de l'assassiné, la servante, et un ami qui était là par hasard.
S'appelait Lavesse. Alors, il y a aussi une autre hypothèse, d'ailleurs c'est ce que dit Calas. Calas dit bien sûr, je suis innocent, je n'ai pas tué mon fils, comment voulez-vous qu'un père tue son fils? Et il dit, mais il ne le dit que le lendemain de la découverte de la mort de son fils, qu'il s'est suicidé. Il dit qu'il a découvert son fils pendu, et qu'il l'a décroché. Alors pourquoi est-ce qu'il a attendu d'abord 24 heures pour dire que son fils était suicidé?
J'ai une réponse, je ne sais pas, je pense qu'elle est valable. Jean Calas appartient aux nouveaux convertis, à ces gens qui sont constamment suspectés, constamment sous le regard d'autrui dans ces quartiers où tout le monde se connaît. Et il a eu très peur que son fils ne subissent le traitement réservé aux suicidés dans la justice de l'ancienne France, à savoir qu'ils étaient traînés par les rues sur une clé et injuriés par la population. Il a eu donc eu très peur de se faire remarquer alors qu'il savait que le quartier avait déjà l'œil sur lui parce qu'il était nouveau converti.
Et il a peur que son fils subisse donc cette peine infamante réservée aux suicidés, alors qu'au contraire, ce que fait la population, c'est, enfin la population, les catholiques, les ultra-catholiques de Toulouse, ils en font au contraire un martyr. Ils donnent au fils Calas des obsèques religieuses ostentatoires, justement en présence d'ailleurs de ces fameux pénitents blancs qui étaient vraiment une secte ultra-catholique de Toulouse. Jeanne Garrison.
Oui, mais bien entendu, avant même que le procès ne soit jugé, par le tribunal de première instance, puis par le Parlement, les obsèques catholiques en grande pompe d'Antoine Calas, de Marc-Antoine Calas, ont été célébrés. Il a été enterré en terre catholique. Les pénitents blancs, qui était la confrérie à laquelle appartenait son frère, l'ont fait une cérémonie tout à fait spectaculaire. Antoine Calas est au fond devenu un martyr catholique alors que le procès n'était pas encore jugé.
Oui, parce qu'au fond, en réservant à son fils des obsèques de ce type, avec ses pénitents qui ressemblaient, qui étaient cagoulés,
un peu comme les gens des peu plus
temps, au fond, on dit, mais votre fils ne s'est pas suicidé, c'est donc qu'il a été tué, c'est donc que vous-même l'avez été tué. Et comme au procès qui se déroule au Parlement de Toulouse, on écoute et on fait pratiquement venir que des témoins à charge.
Oui, on reprend l'instruction des capitouls et les autres témoins interrogés sont aussi des témoins à charge.
Et puis qui disent c'est la sœur de ma cousine, etc. qui m'a dit que le fils voulait vraiment se convertir, ce qui n'est absolument pas prouvé d'ailleurs. Je crois qu'en plus il était très joueur, il était un peu dépressif aussi Marc-Antoine.
Alors Marc-Antoine,
c'est ce qui permet d'accréditer l'hypothèse aussi d'un suicide.
Le suicide est tout à fait possible, parce que il était dépressif, il était un peu raté. Le fait qu'il soit à nouveau converti l'a empêché de devenir avocat, parce qu'il n'a pas voulu demander à l'Église catholique un billet de confession. Mais ce garçon avait d'autres évasions, et son évasion était le jeu. C'était un joueur invétéré, il jouait au billard dans une salle de billard tout près de chez lui d'ailleurs, plusieurs fois par jour. Il perdait de grandes sommes. Il a d'ailleurs volé son père ou vendu de la marchandise appartenant à son père pour régler ses dettes de jeu. Le jour de sa mort, à la demande de son père, il avait changé des pièces d'argent en pièces d'or. Il s'était trouvé dans la salle de jeu. Peut-être quelqu'un a-t-il vu ces pièces d'or.
Ça c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse. Connaissant ses habitudes, sachant qu'il descendait tous les soirs vers 10h du soir, 9h du soir, pour aller jouer, l'a attendu, l'a tué, et l'a détroussé, l'a volé.
Alors ça, c'est une hypothèse qui n'a pas été retenue. Sans aucune preuve contre Calas, on le condamne à mort pour homicide le 9 mars 1762. Il est exécuté le lendemain après avoir été soumis à la question, c'est-à-dire à la torture, pendant laquelle on espérait en vain que Calas reconnaîtrait son crime.
Dites la vérité.
Je n'ai rien à ajouter. Je suis innocent.
Quand vous verrez la roue se dresser devant vous,
je dirai toujours, je suis innocent. Même si j'étais lié sur le bûcher, innocent.
Malheureux, le bûcher va réduire ton corps en cendres.
Vous croyez qu'un père peut tuer son fils ?
Alors c'était Callas sous la torture, proclamant encore son innocence alors qu'il n'a plus rien à perdre, ni d'ailleurs à gagner, puisqu'il a déjà été condamné à mort, ce qui d'ailleurs peut paraître bizarre, Janine Garrison. On le condamne à mort sans qu'il soit passé aux aveux, et ensuite on le torture pour qu'il avoue son crime. C'est quand même curieux, cette torture entre la condamnation à mort et l'exécution.
Alors, c'était la question. Cela prouve cette torture après sa condamnation qui n'appartient pas au rite juridique de l'ancienne France, prouve une chose, c'est que le Parlement de Toulouse n'est pas sûr de lui. Et il espère qu'en condamnant à la torture Callas va dénoncer ses complices. Parce que le Parlement de Toulouse n'a pas de preuves tellement contre Callas, et il n'a pas non plus de preuves contre Madame Callas, l'autre fils de Callas, l'ami qui s'appelle
Laves,
la servante, qui sont aussi emprisonnés et accusés. Donc le Parlement de Toulouse essaie, par cette torture qui n'est pas habituelle dans la procédure, de faire avouer les complices de Callas. C'est un échec.
Oui, la torture sera heureusement supprimée peu de temps après, d'ailleurs, par Louis XVI. C'était vraiment affreux, aussi affreux d'ailleurs que la façon dont on exécutait les condamnés. Hein, on les rouait de coups, on les mettait sur une roue, justement.
On les mettait sur une roue, on leur cassait les membres, on leur cassait à coups de hache les jambes, les articulations, le dos, et on les laissait
mourir. Alors,
ça a été pour le cas pour Callas. On l'a laissé agoniser 2 heures, la face
vers le ciel. Et on a brûlé son corps après.
Puis ensuite, on a brûlé son corps.
Alors, bon, ce qui est étonnant, c'est qu'il était condamné à mort, alors que ses soi-disant complices, vous les citiez, sa femme, un de ses fils, Pierre, cet ami qui était là le jour de la mort de Marc-Antoine Laveille, la servante, finalement, s'en sont tirés, n'ont pas eu de peine, ils ont été acquittés, en fait.
Oui, quelques 8 jours après, s'est déroulé le procès des personnages dont vous parlez, et ils ont été tous mis hors de cour, comme on dit à cette époque. Un seul a été condamné, c'est Pierre, qui a été banni, mais en fait, à peine avait-il pris le chemin des portes de la ville pour s'en aller, que un prêtre, un religieux, l'a amené dans un couvent où pendant 2-3 mois il a essayé de le convertir au vrai catholicisme. Après quoi, Pierre s'est enfui de ce couvent et est allé à Genève.
Oui, alors justement, parce que cette affaire, Jane Garrison, serait restée un simple fait divers connu des seuls Toulousains, si Voltaire, donc sollicité justement par la famille Callas, ne s'en était pas mêlé.
Ainsi on a torturé, on a tué un innocent. Avant d'avoir jugé, on avait condamné. Et pourquoi ? Parce que Callas est protestant. Parce qu'on est protestant, on est un assassin. Eh bien, puisqu'ils veulent tenir tout ceci sous le boisseau, moi, Voltaire, je vais crier ! Car il existe quelque chose qu'ils ne soupçonnent pas, et qui naît présentement, et qui s'affirme. L'opinion publique. Il n'y va pas seulement de l'honneur de la France, il y va de l'honneur de l'homme. Écrivez, Vanier. Je n'ai que les mots, mais les mots volent loin. Ils voleront jusqu'à Versailles. Il faut qu'un tocsin général éveille la justice endormie.
France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, l'affaire Callas et cette chanson dont les paroles sont de Voltaire, lui-même, peuple éveille-toi, Voltaire, Jaime Garrison, qui apprend l'affaire Callas après la mort de Jean Callas, mais qui, d'abord au début, il est hésitant parce qu'il n'aime pas le fanatisme, pas plus le fanatisme protestant que catholique, et puis il s'engage à fond dans cette affaire, il prend vraiment des risques considérables à l'époque.
Oui, plusieurs personnes, des amis des Callas, puis les fils des Callas viennent voir Voltaire qui se trouve dans la près de Genève, puis après à Ferney-Voltaire, ville que tout le monde connaît.
Et, il s'appelait que Ferney à l'époque. Hein.
Oui, ça s'appelait,
ça s'appelle Ferney-Voltaire aujourd'hui.
Ferney tout court. Et l'informe de l'injustice énorme qui a été commise à l'égard du père Callas. Voltaire est très prudent. Il constitue comme un brain trust avec des Genevois. Pour une fois, il s'entend avec les Genevois qui le renseignent, qui lui font au fond un autre dossier d'instruction et autour du mois de juin, donc deux mois à peu près, deux mois
1762,
et demi, après la mort de Callas, il est persuadé que Callas est innocent, qu'il a été condamné par l'Église et par le Parlement pour fait de religion. Et là, Voltaire, va se dévoiler comme un homme avec un grand cœur, avec une grande passion. Il dit qu'il faut crier partout dans Paris, d'ailleurs il écrit des lettres innombrables, crier sans arrêt « Callas, Callas !» Et il avertit les plus hauts dignitaires du Parlement,
du gouvernement
Choiseul, etc., oui. de Louis XV, dont Choiseul, Madame de Pompadour, d'Argenson, qui était aussi secrétaire d'État. Il fait intervenir tous ses amis parisiens. Il organise, un trio d'avocats tout à fait prestigieux et il les fait travailler sur l'affaire Callas.
Il écrit beaucoup, il écrit à Versailles, etc. Et finalement,
il écrit énormément. Il écrit des lettres d'ailleurs pour les accusés. Il écrit une lettre pour Mme Callas.
Il va obtenir la réhabilitation. Mais ce que je vous dis, Jaime Garrison, au fond, on a toujours dit que le premier intellectuel en France, engagé, comme on dit, ça a été Zola pour l'affaire Dreyfus. Plus d'un siècle avant, on peut dire que c'est Voltaire. De même que c'est lui qui fait apparaître, on l'entendait tout à l'heure dans l'extrait de film, l'opinion publique. Et il va le faire d'ailleurs pour d'autres affaires, simultanément ou un peu après Callas. Il y a l'affaire Sirvin, un protestant de Castres accusé d'avoir assassiné sa fille. L'affaire Labarre, qui est un jeune homme qui a été brûlé vif.
Et à côté de la barre, on brûle le traité de la tolérance, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Donc Voltaire est visé dans la condamnation de ce jeune homme.
Et pour ses affaires, Callas, Sirvin ou Labarre, trois affaires pour lesquelles d'ailleurs il obtiendra l'acquittement ou dans le cas de Callas, la réhabilitation des coupables que lui considère comme des victimes.
Attendu que le 1er mars 1763... le bureau de cassation au conseil a jugé la requête des héritiers Callas admissible. Attendu le rapport fait par la commission nommée à cet effet, le conseil déclare que la veuve et les enfants Callas sont définitivement acquittés. La mémoire du défunt réhabilitée. Ordre étant donné au Parlement de Toulouse de biffer sur ses registres la sentence capitale et de transcrire en marge l'acte de réhabilitation.
Et c'était la réhabilitation de Callas, comme Dreyfus, 150 ans plus tard, Jaime Garrison, à ceci près que si on a prouvé l'innocence de Dreyfus, on n'a jamais prouvé, même s'il était innocent, on n'a jamais prouvé l'innocence de Callas. Pendant deux siècles, et encore aujourd'hui, les historiens se demandent, au fond, de quoi est mort son fils Marc-Antoine.
Alors que l'innocence de Dreyfus a été éminemment démontrée, l'innocence de Callas ne l'est pas. Même le procès en réhabilitation ne donne pas de preuves, dans les attendus des avocats, de l'innocence de Callas. Et de nos jours encore, on s'interroge de quoi Marc-Antoine est mort. S'est-il suicidé? A-t-il été tué par sa famille? Ou bien a-t-il été tué par quelqu'un venant de l'extérieur? Mon opinion personnelle est qu'il s'agit d'un meurtre venu de l'extérieur.
Un meurtre crapuleux peut-être, quelqu'un qui aurait vu Marc-Antoine Calas avec beaucoup d'argent et qu'il l'aurait suivi chez lui.
Marc-Antoine Calas, par ses fréquentations de salles de jeu, fréquentait des gens peut-être peu recommandables qui ont été amenés à le tuer. Mais il n'y a aucune réponse à ces trois hypothèses, et de ce fait, pour les historiens, en cours de nos jours, c'est comme une espèce de prurite qui gratte, ils s'interrogent et ils se disent...
Vous n'êtes pas des policiers, vous avez l'honnêteté, vous, Jeanne Garrison, de dire qu'on ne sait pas et d'émettre des hypothèses sans rien affirmer. Cela dit, l'importance de l'affaire Jeanne Garrison, c'est pas tellement ça au fond, qui a tué Marc-Antoine Calas, c'est que c'est une affaire exemplaire. Vous dites vous-même qu'au fond, elle pourrait s'est passée, on l'a revue 150 ans plus tard avec Dreyfus, et elle s'est... Aujourd'hui, vous dites qu'elle est encore d'actualité. Et en quoi peut-on dire que l'affaire Calas, 250 ans après, est encore actuelle?
Je pense ce qu'on peut le dire parce que un individu qui appartient à une minorité et une minorité suspectée par l'ensemble de la population, une minorité sur laquelle il court des bruits étranges, un individu comme Calas et sa famille qui est conscient de la suspicion dans laquelle il se trouve et qui se défend mal, puisque il a d'abord dit qu'il avait trouvé son fils mort, puis après il dit qu'il s'est suicidé. Changer les variables, mutatis mutandis, une affaire de ce type pourrait se passer de nos jours, n'importe où, n'importe quand.
Elle se passe même peut-être souvent. Jeanne Garrison, en tout cas, merci de nous avoir rappelé cette vieille affaire qui est passionnante, conduite un peu comme une enquête dans votre livre, l'affaire Calas, donc, qui vient de sortir aux éditions Fayard. À lire également sur le sujet le texte original du traité sur la tolérance de Voltaire, réédité l'année dernière aux éditions Gallimard dans la collection Folio, 2 euros, et qui traite beaucoup de l'affaire Calas. Vous avez pu entendre des extraits de l'affaire Calas, une émission de la très célèbre série La caméra explore le temps, de Stelio Lorenzi, André Castelot et Alain Decaux, avec Pierre Assaut dans le rôle de Voltaire, un film disponible en DVD chez LCJ Éditions Productions. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs au 32 30, 34 centimes la minute, ou en consultant le